La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Québec a présenté son plan pour protéger le français, un plan de 603 millions sur 5 ans, 21 mesures. Et pour bien comprendre ce qu'il en retourne, Jean-François Roberge, ministre de la langue française, est avec nous. Bonjour, M. Roberge.
Bonjour, M. Dubé.
Alors, résumez-nous les principales mesures de ce plan-là d'abord.
On a fait un travail exhaustif là, à 6 ministres. On a consulté beaucoup, beaucoup d'experts. Je vous dirais que les mesures les plus costaudes touche l'immigration, l'enseignement supérieur et la culture. Alors, on avait déjà fait quelques annonces en immigration, des annonces importantes avec ma collègue Christine Fréchette. On avait fait des annonces aussi en enseignement supérieur, McGill et Concordia qui maintenant vont devoir devenir des vecteurs de francisation du Grand Montréal. Je pense que c'est un tour de force. Hier, mon collègue Mathieu Lacombe est arrivé avec quelque chose de très important, une annonce officielle, un engagement à déposer d'ici 12 mois un projet de loi. Donc, on va légiférer pour encadrer les plateformes de divertissement. Monsieur Dutrisac en parlait il y a une petite minute dans votre rencontre. Dans les radios classiques, il y a des quotas de musique francophone. Bon, c'est pas toujours parfait, mais reste que si je me branche sur un poste de radio francophone, je vais entendre du français. Si j'ouvre mon application Spotify, ce qu'on va me proposer, ce ne sera pas en français. Oui, je peux sélectionner pour aller trouver Jean-Pierre Ferland et d'autres.
Mais c'est noyé dans une marée de titres. Oui. Ah, c'est ça, M. Robert. C'est noyé dans une marée de titres anglophones. C'est la même chose sur Netflix ou peu importe les plateformes. Mais comment vous allez faire pour légiférer? Comment vous allez faire pour légiférer contre ces géants-là quand on voit ce qui se passe avec Ottawa, le bras de fer avec Facebook, ces mauvais citoyens corporatifs?
On aurait pu aller plus vite là, puis faire une annonce qui est précipitée. On a préféré attendre quelques minutes, quelques mois de plus pour avoir quelque chose qui est plus abouti, finir notre réflexion. Donc, Mathieu Lacombe qui a mandaté un groupe d'experts avec des experts du milieu culturel, mais aussi des constitutionnalistes pour trouver la voie légale pour frayer notre chemin là et arriver avec quelque chose qui est solide. Et puis, Martine Biron, notre ministre des Relations internationales de la francophonie, Mathieu Lacombe et moi sommes tous allés en Europe dans la dernière année, parler avec les gens pour voir comment ils ont fait. Parce qu'ils ont réussi là en Europe, en France, ils ont réussi le coup de légiférer pour améliorer la découvrabilité. Quand on ouvre une application, quand on ouvre Netflix là en France, on se trouve pas là catapulté aux États-Unis par magie là. On a du contenu français qui nous est proposé. Bien sûr, les Français peuvent écouter d'autres choses. Ils peuvent écouter le dernier film de Sylvester Stallone s'ils veulent. Mais il y a du contenu français et francophone qui est proposé. Bon. Nous, on n'a pas ça au Québec. Si j'ouvre mon application là, on dirait que je me retrouve à Atlanta, New York, Los Angeles. Partout sauf le Québec, il faut que ça change.
Donc, il y a la législation. Mais est-ce que le problème est plus profond que ça? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai 37 ans. Mes chansons préférées, mes artistes préférés sont québécois. Mes séries préférées sont québécoises. Mais j'ai l'impression, puis je ne suis pas si vieux que ça, là, mais qu'il y a eu une coupure et que chez certaines personnes plus jeunes, Il y a eu un désintérêt de la culture québécoise. Comment vous allez faire pour aller raccrocher ces gens-là, piquer leur intérêt? Ça va au-delà de légiférer contre les géants du web.
Bien, je pense qu'il y a une grosse partie qui passe par la légifération parce que si, par exemple, vous avez aujourd'hui 16 ans, 17 ans et que vous n'allumez, n'ouvrez jamais ni la radio ni la télé, que vous ne consommez votre musique que par les applications et votre télé, vos séries, vos films que par les applications, vous n'êtes jamais mis en contact avec de la culture québécoise.
Il n'y a pas un travail familial à faire aussi, je sais pas.
Oui. Oui, absolument. Oui, c'est sûr qu'il y a un travail familial à faire. Je le fais chez moi avec mes deux jeunes filles. Mais il y a aussi quelque chose à faire à l'école. Puis hier, notre ministre d'Éducation, Bernard Drinville, nous disait qu'il est en train de revoir l'ensemble du programme de français, là, de la maternelle jusqu'à secondaire 5. Et il va y inclure, dans le programme, des références à nos œuvres culturelles. Donc, quand j'apprends le français, je peux l'apprendre à travers des textes de Daniel Bélanger. Je peux l'apprendre aussi à travers des dialogues de pièces de théâtre, de films. Et ça aussi, c'est une manière de faire découvrir la culture. Après ça, les jeunes choisiront ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, mais ils auront été en contact avec nos œuvres.
Mais il y a du chemin à faire. Ça parle anglais dans les corridors. Les jeunes se parlent en anglais entre eux dans bien des écoles. Ça a fait des manchettes récemment.
C'est vrai. C'est vrai, c'est pas partout quand même, mais oui, il y a du chemin à faire. Puis on n'est pas dans le déni, puis on dit pas oui, ça va être facile. Si ça avait été facile, on aurait pu annoncer une petite mesure comme ça, là, et ça aurait été correct. Mais on a plutôt fait 15 mois de travail sérieux. On a consulté plus d'une trentaine d'experts. On a travaillé à 6 ministres. On est allé chercher plus de 600 millions de dollars de budget. Donc, si on met des moyens aussi considérables, c'est parce qu'on est conscient que ça sera pas facile.
Parler de l'éducation, il y a notre collègue Mathieu Bock-Côté qui partageait un peu ses attentes à la suite du dévoilement de ce plan-là. Allez-vous imposer la loi 101 au cégep, tant qu'à aller plus loin?
Ben, je trouve ça drôle quand on me propose ça, parce que la loi 101, c'est la Charte de la langue française. Et elle s'applique maintenant au cégep jusqu'à 2021, là, avant le projet de loi de Simon-Jean Labarrette, notre loi 96, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Si vous aviez fait contrôle recherche là sur le document de la Charte de la langue française, vous auriez été incapable de trouver le mot cégep ou collège. Maintenant, les places dans les cégeps anglophones sont plafonnées à moins de 20 % 17,5 au maximum. Donc, le nombre de personnes qui peuvent y accéder est limité. Ces places sont d'abord et avant tout réservées à la communauté anglophone en priorité, ce qui laisse moins de place aux allophones, il faut le dire, parce que c'est eux, des fois, qui basculent dans le camp linguistique.
Mais il y en a quand même.
Anglais. Et il y a aussi des cours de français qui sont imposés dans les cégeps anglophones pour la première fois. Et l'épreuve uniforme de français qui est très exigeante aussi imposée pour la première fois dans les cégeps anglophones. On est à l'an 1 de ce changement-là. Je pense qu'il faut prendre le temps de mesurer l'efficacité de ces mesures-là.
320 millions pour la francisation de travailleurs étrangers temporaires. C'est bien beau, mais si on garde les mêmes seuils d'immigration au niveau actuel avec les demandeurs d'asile, si Ottawa ne bouge pas, est-ce que ce sera un coup d'épée dans l'eau?
Ben, il va falloir, vous avez raison, il va falloir réduire le nombre. Il y a beaucoup, beaucoup trop de demandeurs d'asile en ce moment sur le territoire québécois. Il faut réduire ce nombre-là. Il faut les répartir beaucoup mieux sur le territoire québécois. D'ailleurs, vendredi dernier, là, j'étais en rencontre bilatérale avec un important ministre du gouvernement fédéral et on parlait exactement de ça. On est dans une période de négociation intense avec Ottawa en ce moment. D'ici juin, là, il faut arriver à quelque chose parce que les premiers ministres, Legault et Trudeau, ont monté la barre, nous ont mis de la pression, nous, les gens de leurs équipes, pour arriver à une entente d'ici la fin juin.
Allez-vous réellement faire...
On n'allait pas s'empêcher de faire un plan pour le français.
Non, j'espère bien. Mais allez-vous réellement faire un référendum sur le rapatriement, en tout cas de davantage de pouvoir en immigration, ou c'est du bluff, votre affaire?
C'est pas exclu. On n'a jamais dit qu'on allait le faire. Là. On a dit ça fait partie des options. Pour faire comprendre au gouvernement fédéral que la position des Québécois, elle est très claire. On veut accueillir des immigrants, on veut accueillir des demandeurs d'asile. On sait qu'il y a des gens qui sont dans une situation très, très difficile dans des pays en guerre, mais il y a une capacité d'accueil à respecter. À un moment donné, quand il n'y a plus place dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos logements, quand on n'est plus capable de franciser tout ce monde-là, c'est qu'il y en a trop. Donc, on va demeurer ouvert. Mais jusqu'à une certaine limite en termes de quantité de personnes qui peuvent arriver sur le territoire québécois.
Le bonjour aille, là. pourquoi c'est pas bonjour, point barre? Pourquoi on tolère ça?
Si vous voulez, mon ami, il faut que ça soit bonjour. Il ne faut pas que ça soit bonjour. Hey,
ça mais il ne faut pas juste parler.
Un signal de bilinguisme institutionnel.
Pourquoi c'est pas juste bonjour? Là, on le dénonce, on parle, mais... Pourquoi vous ne sortez pas les dents là-dessus?
Au moment où on se parle, la loi actuelle dit qu'on doit pouvoir être servi en français. D'accord? Donc, si on entre dans un commerce et on se fait dire bonjour, hi, on dit bonjour. Et normalement, là, il y a quelqu'un qui est capable de nous servir ensuite en français. Et les dernières données de l'OQLF nous indiquent qu'à Montréal, c'est 97 % des commerces sont capables de nous servir en français. Dans le reste du Québec, c'est 98 %. Il y en a qui vont dire que c'est très bon. Moi, je vais être content quand ça va être 100 %.
Mais il y a un recul du français, là. Quand on regarde les chiffres, là. Et là, on va avoir un nouveau tableau de bord, là. Votre tableau de bord va clignoter.
Bien, la première fois, c'est certain. Écoutez, on documente pour l'instant dans quelle mesure et dans quel secteur ça va bien, mais surtout dans quel secteur ça va pas bien. Puis on va se le dire, là, français, langue maternelle, mais français, langue de travail, français, langue de consommation culturelle, on en parlait ensemble tout à l'heure. Français, langue de consommation dans les magasins physiques, mais aussi langue de consommation en ligne quand je magasine sur mon ordinateur ou mon téléphone. Ce sont des indicateurs qui vont pas bien en ce moment. Mais ce qui se mesure pas, s'améliore pas. Et nous, on met en place là une vision importante, interministérielle, ambitieuse, un projet de loi, des centaines de millions. On va être capable de mesurer dans un an, deux ans, trois ans, et ainsi de suite, quel progrès on fait. Parce que si on fait pas les progrès nécessaires, on va être capable de s'ajuster. Mais avant, hier, on était condamné à attendre cinq ans, à attendre après le gouvernement fédéral qui fasse son recensement à tous les cinq ans. C'est pas assez rapide. On n'aimait pas être dans cette situation d'attente. C'est pour ça qu'on va créer des indicateurs importants. Et ça sera très fiable, là, c'est avec l'Institut de la statistique du Québec dont les données sont incontestables. Ouais.
On a un tableau de bord en santé. Ça va pas nécessairement mieux dans nos hôpitaux. Alors, le tableau de bord va nous dire, on sait que ça va mal, mais après ça, vous allez faire quoi, M. Robert?
Ben, je pense qu'il y a des éléments, oui, il y a des voyants rouges là, sur le tableau de bord en santé, mais il y a des éléments qui s'améliorent aussi. Là. Je pense qu'il faut voir les deux, puis je pense que Christian Dubé est très, très lucide à cet égard-là. Là. Quand ça va pas bien, il dit, il
essaie de jamais de masquer, faut lui donner
la vérité. Et il faut voir avec un tableau de bord, ça va nous permettre d'être plus fins. D'être plus précis. Si on voit, par exemple, que français langue de travail s'améliore, mais que français langue d'usage, par exemple, dans nos écoles, dans nos cégeps, dans nos universités, ne s'améliore pas, ben on va concentrer nos efforts là où on a besoin de le faire. On veut pas travailler à l'aveugle et investir des millions puis des énergies dans quelque chose qui est pas optimal. Et c'est ça qui est important. C'est une démarche d'efficacité, de transparence, parce qu'à chaque année, il n'y a pas juste le gouvernement, mais tous les Québécois auront maintenant leur juste.
Dites-moi, c'est un peu paradoxal. Quelques heures avant votre annonce, c'est un monument de la francophonie, de la culture québécoise qui est décédé, Jean-Pierre Ferland. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous?
Jean-Pierre Ferland, c'est une voix incroyable. Jean-Pierre Ferland, c'est quelqu'un qui nous faisait chanter, qui nous transformait tous un peu en crooner avec son charme incroyable. Quand il chantait les yeux fermés, on avait l'impression qu'il ressentait chacune des paroles. Et moi, le disque que j'ai le plus écouté, c'est celui avec « Écoute pas ça », mon Dieu, j'oublie le nom du disque, je m'excuse. Mais ce dernier-là, je me souviens, j'avais un véhicule qui avait même pas de lecteur de CD, là, en recul, mais il y avait un lecteur de cassette et j'avais acheté le CD, copié sur une cassette pour être capable d'écouter dans l'auto. C'est dire à quel point ces paroles m'ont bercé. Puis évidemment, on offre toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, mais en réalité, c'est tout le Québec qui est en deuil. Ouais.
C'est la nouvelle politique du jour. Je veux quand même vous entendre là-dessus. Émilie Lessard-Thérien, qui quitte ses fonctions comme co-porte-parole féminine du parti. Elle a fait un long message sur Facebook en disant « Bon, 4 mois à peine, on suffit à m'épuiser complètement. Je suis parti en arrêt de travail fin mars. » Les deux genoux à terre, l'élan freiné. J'ai voulu y monter, tenter d'influencer le cadre de réflexion du parti. Mais bon, elle a été incapable de le faire. Comment vous réagissez à ce départ-là?
Ben, c'est triste. Je vais faire attention là, parce que je connais pas les 100% des circonstances de son départ. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été sincère. On n'était pas d'accord sur tout, Émilie et moi, mais j'ai toujours eu du respect pour sa démarche, pour son authenticité. Et puis, c'est quand même quelque chose comme engagement, alors qu'elle avait perdu la dernière élection, de rester militante, de rester mobilisée, de vouloir s'impliquer dans son parti, aller à la rencontre des gens. C'est ça, la démocratie vivante aussi, hein? C'est d'aller voir les gens puis de les écouter. Je pense que c'était la mission qu'elle s'était donnée. Ça n'a pas collé avec la manière de faire là, à Québec solidaire. Elle semble lui laisser trouver des solutions à ça.
Elle semble dénoncer une mainmise. Oui, mais elle semble dénoncer une mainmise de l'entourage autour du co-porte-parole masculin. Vous inquiétez pas quand vous lisez ça.
Écoutez, là-dessus, je ne m'embarquerai pas. Là. Je ne connais pas le fin détail. Je ne me mettrai pas là, à lancer de la boue à qui que ce soit ou à jeter le blâme. Je ne connais pas exactement les détails de ce qui est arrivé entre Émilie et l'équipe de Québec solidaire. Là, je n'embarquerai pas dans ce genre de choses-là. Il y a des choses de régie interne. Ça va être à eux à trouver des solutions à leurs problèmes.
Jean-François Roberge, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Vous êtes ministre de la langue française.
Merci, bonne journée.
Au revoir.